Vous écoutez France Culture.
Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. Si le mot n'était pas si galvaudé, on dirait de lui qu'il est le passeur par excellence entre la Chine, où il est né en 1929, et l'Occident, où il vit depuis ce 31 décembre 1948, où, étudiant ne parlant pas un mot de français, il débarquait à Paris. Poète, philosophe, romancier, calligraphe, traducteur en chinois de Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, René Char, auteur d'essais sur la pensée, l'esthétique et la poésie chinoise, il a reçu en 2001 le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre, avant de faire son entrée l'année suivante sous la coupole. Une vie tout entière vouée au dialogue entre les cultures et les pensées d'Orient et d'Occident, toujours soucieux du « entre », de ce qui surgit d'entre les vivants, fait d'inattendu et d'inespéré, toujours mu par l'irrésistible désir d'appréhender le meilleur de l'autre, de le comprendre en profondeur. Celui qui nous a initiés à la compréhension de la grande peinture chinoise, à travers notamment ses monographies consacrées à Shitao et à Shuta, nous fait partager aujourd'hui, dans un ouvrage intitulé « Pèlerinage au Louvre », son regard et ses réflexions sur quelques-uns des plus beaux tableaux de ce musée. Il nous fait partager, avec la pudeur qui est la sienne, son émotion toujours renouvelée devant des œuvres qu'il avait découvertes tout jeune et avec lesquelles il n'a depuis cessé de s'entretenir. Au même moment, les éditions Audiolib présentent l'enregistrement de 5 méditations sur la beauté, lues par l'auteur et qui s'ouvrent sur ces mots. En ces temps de misère omniprésente, de violence aveugle, de catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourra paraître incongru, inconvenant, voire provocateur, presque un scandale. Mais à raison de cela même, on voit qu'à l'opposé du mal, la beauté se situe bien à l'autre bout d'une réalité à laquelle nous avons à faire face. Je suis persuadée que nous avons pour tâche urgente et permanente de dévisager ces deux mystères qui constituent les extrémités de l'univers vivant. D'un côté, le mal, de l'autre, la beauté. Les affinités électives de François Cheng. Bonsoir François Cheng. On écoute un extrait du concerto pour violoncelle et orchestre opus 104 en si mineur de Anton Dvorak, interprété par Mstislav Rostropovitch au violoncelle et l'orchestre symphonique de Boston dirigé par Seiji Ozawa. Ce concerto apparaît dans l'un de vos livres, votre premier roman, Lady de Tian Yi. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles circonstances cette musique de Dvorak apparaît dans le roman?
En effet, c'est un des premiers morceaux de musique occidentale que j'ai écouté dans ma vie. Vous me demandez les circonstances, c'était dans les années 40. On était en pleine guerre, donc... la vie en général et puis la vie musicale, bien sûr, était tout ce qu'il y a de plus rudimentaire. Et pourtant, c'était un orchestre du Conservatoire de musique nationale, avec aussi un soliste chinois aussi, encore très mal formé. Et pourtant, il se dégageait de cette interprétation une émotion extraordinaire. Donc, et surtout, Dvorak, c'est un musicien originaire de l'Europe orientale. Il y a chez lui cette profondeur de sentiment teintée de mélancolie et de nostalgie. Et cette mélancolie et cette nostalgie, on le sait, a été accentuée du fait de son exil en Amérique. Et tout cela correspond un peu finalement à mon propre destin. C'est-à-dire, finalement, j'ai connu l'exil, donc je suis aussi souvent habité par ce sentiment de mélancolie et de nostalgie. Donc aujourd'hui, réentendre cette musique vraiment me procure beaucoup d'émotions, oui.
François Cheng, lorsque j'ai demandé à ce que vous apportiez une photo de vos 20 ans, c'est une demande que je fais à tous mes invités, vous m'avez fait savoir qu'il n'existait pas de photo de vos 20 ans. Pour quelle raison?
Parce que j'ai quitté la Chine dans des conditions un peu imprévues. À ce moment-là, j'étais un jeune homme de 19 ans et demi. Je n'avais rien à porter avec moi. Et par la suite, je n'ai pas pu me retourner en Chine durant de longues années. Tout était perdu, oui. Oui.
Vous êtes né en 1929 dans la province de Shandong, dans la Chine du Sud.
Shandong est une province qui se situe un peu au nord du fleuve Yangtze. Mm-hmm. Oui. Donc ce n'est pas l'extrême nord de la Chine, mais c'est quand même, ça fait partie du centre nord de la Chine.
Et pendant la guerre sino-japonaise, à partir de 1937, votre famille, qui est une famille de lettrés, d'universitaires, se réfugie dans le Sichuan, et c'est le premier exil que vous avez connu. Quel souvenir vous gardez de ces années de guerre? Le protagoniste de votre roman, auquel je faisais allusion tout à l'heure, Lady de Tian Yi, qui vous ressemble par bien des côtés, est persuadé dès son plus jeune âge qu'il sera toujours décalé. Est-ce que c'était le même sentiment que vous aviez pendant ces années de guerre, de déplacement, d'exil, que toute votre vie était destinée à être dans ce décalage?
Oui, donc il y avait cet exil dû à la guerre, puisqu'on a fait notre famille ainsi qu'une grande partie de la population chinoise ont fait de très long exode vers les provinces intérieures. Donc Sichuan est une de ces provinces intérieures où le gouvernement en exil s'est installé. Vous évoquez ce pressentiment d'une sorte d'exil permanent dans ma vie, n'est-ce pas? En effet, quand la guerre a commencé, j'avais à peu près 8 ans. À peu près 8 ans, oui. Et donc, plus tard, à l'âge de 15 ans, toujours pendant la guerre, à l'âge de 15 ans, j'avais déjà ce pressentiment que je serais toujours un être en marche. C'est très étrange parce que ma famille était une famille de lettrés et j'avais fait des études au lycée d'une manière à peu près correcte. Et pourtant, dès l'âge de 15 ans, j'avais ce pressentiment, c'est-à-dire il y a déjà cette sensation d'une sorte d'inaptitude à vivre une vie normale, en tout cas à vivre une vie selon la norme. Et donc, je pensais déjà à cette époque que je n'aurais jamais une formation, un métier, et par là de m'établir dans la vie en fondant un foyer, par exemple. Donc, dès cette époque-là, je dis bien à l'âge de 15 ans, c'était l'année de mon éveil à la littérature et à l'art. Et à ce moment-là, j'avais pensé que probablement ma seule arme serait
l'art,
la littérature, ou bien l'écriture.
L'écriture.
Voilà. Mais sans avoir aucune confiance en ma capacité à mener à bien une œuvre quelconque. Hein, oui.
Dans votre livre Le Dialogue, vous écrivez « Au moment où, menacé par la guerre et par des épidémies de toutes sortes, la vie de chacun paraissait ne tenir qu'à un fil, la littérature ouvrait un univers de signes sans limite et se révélait vital. »
Tout à fait.
Et c'est à cet âge-là, l'âge de 15 ans, que vous découvrez la littérature occidentale à travers la lecture, en particulier de Romain Rolland et surtout de Gide, les nourritures terrestres, qui sont pour vous une véritable révélation.
Non, cette découverte ne se limitait pas à Gide et à Romain Rolland. À ce moment-là, on est dans les années 40, 43, 44, à cause de cette concentration des écrivains à l'intérieur de la Chine, il y avait, malgré la guerre, une activité littéraire extraordinaire. Donc on a mené un travail de traduction aussi très intense. Donc nous découvrions la littérature russe, la littérature anglaise, bien sûr, anglo-américaine, et puis bien sûr la littérature française. Donc tous les grands auteurs du 19e siècle, par exemple, Hugo, Balzac, Flaubert, Zola, Stendhal aussi, à ne pas oublier, et puis tous certains auteurs modernes. À ce moment-là, nous ne connaissions pas Proust. Hein. Par contre, il y a deux auteurs modernes qui ont beaucoup marqué la jeunesse chinoise. Donc, c'est ce que vous avez nommé tout à l'heure, Romain Rolland et Gide.
Et, Gide oui. Oui. Et vous racontez dans la préface de Pèlerinage au Louvre, un livre qui vient de sortir, une coédition du Musée du Louvre et des éditions Flammarion. Vous racontez dans cette préface que les premiers tableaux du Louvre, vous les avez découverts en Chine sous forme de cartes postales. On reparlera plus longuement de ce livre tout à l'heure, mais il y a d'un côté la découverte de la littérature occidentale et d'un autre côté, et peut-être avant même la découverte de la littérature, ces images, ces reproductions qui vous arrivent sous forme de cartes postales.
Là, il faut remonter un peu dans le temps. Nous venons de parler de cette période
de
ma 15e année. Mais là, il faut remonter plus loin, jusqu'à à l'âge de 6 ou 7 ans. Mm-hmm. À ce moment-là, c'était donc avant la guerre. Et notre famille, étant originaire de la province du Jiangxi, où se trouve le célèbre Mont Lu, qui est encore très visité aujourd'hui encore par les touristes. Ce Mont Lu était considéré comme un des plus beaux endroits de la Chine. Historiquement, il était déjà célèbre, puisque ce mont a été investi par de grands peintres, de grands mystiques aussi, de grands ermites bouddhistes ou taoïstes. Et vers la fin du 19e siècle, ce site a été découvert par des occidentaux, parce que le Mont Lu, à cause de son altitude, jouit toujours d'une sorte de fraîcheur extraordinaire. Et donc les Occidentaux, pour fuir la chaleur de la vallée du Yangtze, donc ont construit beaucoup de chalets, de cottages, de villas autour de ce Mont Lu. Donc à ce moment-là, comme tous les étés, nous avions l'habitude de monter sur les hauteurs du Mont Lu pour passer l'été aussi. Et là, c'était mon premier contact avec l'Occident, parce que sur les sentiers, on peut rencontrer, bien sûr, des Occidentaux qui se promenaient, et surtout, l'enfant que j'étais avait la surprise. Et puis
le bonheur
de rencontrer des jeunes filles occidentales en maillot de bain, parce que le Mont Lu était parsemé de cascades, de chutes d'eau qui forment des étangs partout, et donc on peut se baigner un peu partout. Mmh. Et donc c'était mon premier contact avec l'Occident. Et vous parliez justement de ces cartes postales, parce que c'était l'époque où une de mes tantes était rentrée de Chine après un séjour en France. Donc
Elle était rentrée d'Europe.
Après un séjour en France. Mm-hmm. Donc elle a rapporté des cartes postales, à ce moment-là aussi très rudimentaires, en noir et blanc, des reproductions des œuvres des collections du Louvre. Et il y avait bien sûr des Vénus grecques et aussi des tableaux de certains peintres comme Ingres, comme Chassériau, et d'autres peintres. Et notamment, il y a cette source d'Ingres qui a frappé l'imagination, enfin, la sensibilité de l'enfant que j'étais, oui.
Il faut rappeler pour nos auditeurs que ce tableau d'Ingres, la source, c'est une jeune femme nue, debout, et qui tient une sorte de vase, de cruche, d'où jaillit l'eau. Donc, finalement, il y avait à la fois la beauté de la nature, du Mont Lu.
Tout à fait.
Et il y avait la beauté de ces jeunes filles en chair et en os que vous rencontrez sur les chemins.
Oui.
Et puis, il y avait la beauté des tableaux, de ces femmes.
De l'œuvre de la création artistique, oui.
Et alors, d'autres nus vont vous hanter un peu plus tard. Et ce sont les photos des femmes chinoises violées et tué par les soldats japonais pendant la guerre. Et c'est de la superposition de ces images, d'un côté les nus d'Ingres et de Chassériau.
Cette beauté idéalisée, d'un côté.
Oui, et puis de ces corps de femmes
souillées
et torturées.
Oui.
C'est de là que naît une première conscience, peut-être encore confuse à ce moment-là, mais une conscience que vous avez eue, donc très jeune, de la beauté de la nature, de la beauté des femmes, et en même temps de la réalité dramatique, tragique du monde. Et c'est peut-être à ce moment-là que prend forme, que naît le premier germe de cette réflexion sur la beauté qui vous a accompagné, qui vous accompagne encore et qui aboutira aux 5 méditations sur la beauté dont nous allons parler tout de suite.
Tout à fait.
Vous dites « Toute ma vie, j'étais heurtée par les deux extrémités de l'univers vivant qui sont le mystère insondable de la beauté et le phénomène du mal. » Tout ça, c'était étroitement lié.
C'est étroitement... d'abord, c'est étroitement d'abord opposé. Hein. Ce sont les deux extrémités de la réalité d'un univers vivant et en même temps imbriqué, puisque cette même beauté qu'on peut comment dire, exalter comme presque l'idée qui vaut la peine, qui peut être l'objet de notre quête infinie, est d'un autre côté cette beauté souillée par la cruauté humaine. Donc ils sont à la fois opposés en même temps imbriqués. Et là, j'ai compris que à l'époque, hein, j'étais vraiment très jeune, mais je savais déjà que j'aurais à affronter ces deux mystères. Donc, d'un côté, le mal, et de l'autre côté, la beauté. Ici, j'ajoute tout de suite une remarque. D'ailleurs, souvent, les gens me demandent pourquoi vous opposez la beauté au mal. Parce qu'en général, l'opposé de beauté, c'est la laideur. Mmh. Et pourtant, non. C'est-à-dire, dans mon optique, la beauté est un bien et non pas seulement un ornement ou un...
Vous êtes très grec.
Oui, en ce sens, oui. N'oubliez pas que la pensée chinoise aussi a exalté l'idéal de la beauté, surtout à travers la nature. Hein, à travers la nature. L'art chinois n'a pas exalté le corps humains comme en Occident. Par contre, ils ont porté très haut cette quête de la beauté que recèle la nature. Donc pour moi, la beauté n'est pas seulement un ajout, un ornement, mais c'est le bien suprême. C'est en ce sens que je l'oppose au mal, voyez.
François Cheng, 5 méditations sur la beauté ont été... un livre édité par Albin Michel en 2006, mais avant d'être un livre, ces méditations avaient été une parole partagée au cours de 5 soirées. Donc, elles étaient nées, ces méditations, dans une rencontre, un face-à-face avec un public. Et puis maintenant, voilà qu'elles reviennent, ces méditations, à leur origine orale, à travers un enregistrement qui a été édité tout récemment par Audiolib, dans une collection qui existe depuis le mois de janvier-février. Et donc, vous avez lu vous-même ces méditations. Et je vous propose d'écouter le tout début de ce CD.
Première méditation.
En ces temps de misère omniprésente, de violence aveugle, de catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourrait paraître incongru, inconvenant, voire provocateur, presque un scandale. Mais en raison de cela même, on voit qu'à l'opposé du mal, la beauté se situe bien à l'autre bout d'une réalité à laquelle nous avons à faire face. Je suis persuadé que nous avons pour tâche urgente et permanente de dévisager ces deux mystères qui constituent les extrémités d'un univers vivant, d'un côté le mal, de l'autre la beauté.
Voilà, c'est le tout début des 5 méditations sur la beauté dans l'enregistrement, donc le CD édité par Audiolib, François Cheng.
C'est ça. Donc cet enregistrement restitue un peu la forme initiale par laquelle j'ai mené ces 5 méditations, c'est-à-dire initialement c'était oral, puisque j'ai demandé à mon éditeur de rassembler un nombre de personnes pour que je puisse réfléchir presque devant eux. Parce que j'ai compris que ce thème de la beauté, je ne pourrais pas le mener dans mon coin, dans ma chambre par exemple, d'une manière abstraite. J'ai besoin de trouver devant moi tout un ensemble de visages, d'ailleurs tous de beaux visages. C'était des gens, d'abord il y a des femmes et aussi des hommes habités par l'intelligence, par leur intériorité. Et donc c'est devant ces visages que j'ai pu mener cet ensemble de réflexions qui a abouti justement à ce livre qui est les 5 méditations sur la beauté.
La beauté relève de l'être, pas de l'avoir, dites-vous, alors que tout nous prouve aujourd'hui autour de nous que l'utilisation que nous faisons de la beauté est une utilisation d'avoir, c'est un objet de consommation. Elle n'est plus l'enjeu de l'art contemporain, par exemple. Donc elle a disparu, comme, non seulement comme idéal, mais comme notion même de l'art contemporain. Et vous revenez sur cette idée de beauté avec force.
Parce que je voudrais rappeler ce don extraordinaire qui nous est donné. Il s'agit d'un don c'est une promesse que contient la vie depuis son origine. Donc si on oublie cela, nous perdons notre raison d'être même. Si vous permettez que j'ajoute une réflexion, hein, c'est-à-dire l'univers n'est pas obligé d'être beau. On peut parfaitement imaginer un univers uniquement fonctionnel où quelque chose se meut comme cela indéfiniment. Maintenant, on a un exemple au XXe siècle. Ce serait un tel univers serait un univers uniquement concentrationnaire, c'est-à-dire où tous les êtres sont identiques, réduits à un numéro. Or, ça ne s'est pas passé comme cela. L'univers, cette immense aventure de l'univers de la vie, a abouti à chacun de nous. Et chacun, en son unicité, c'est-à-dire unique et irremplaçable, et c'est à cause de cela que la beauté est devenue possible. C'est-à-dire, chacun désormais n'est plus un simple numéro parmi d'autres ou une figure parmi d'autres, mais un être unique parmi d'autres êtres uniques aussi. C'est à cause de cette unicité que la beauté est devenue possible, puisque chacun étant unique devient une présence parmi d'autres présences. Et à chacun, on peut donner justement un nom. C'est le commencement du langage, d'ailleurs. C'est le commencement de l'amour aussi. Donc, à travers cela, nous voyons que la beauté est un don qui est une sorte de promesse contenue dans la matière vivante même, comme une promesse initiale. Et donc, l'univers ne peut pas ne pas aboutir à chacun de nous. Et à cause de ça, il ne peut pas ne pas aboutir à cette présence de beauté. Quelle est la définition de la beauté? C'est lorsque une présence unique tend vers la plénitude de sa présence au monde. Vous voyez, ça c'est à l'instar d'une fleur ou d'un arbre. Donc si on oublie cette racine qui fait la unicité de notre être, nous perdons notre raison d'être. Hein. Donc c'est pourquoi aujourd'hui l'humanité est en crise, parce que nous avons oublié ce don qui nous est accordé. Depuis l'origine, je le répète encore.
Thank you.
Franz Schubert, sonate pour piano en la mineur, deuxième mouvement, interprété ici par Leif Ove Andsnes. François Cheng, si on revient à votre biographie, vous obtenez une bourse de l'UNESCO, vous avez 19 ans, et le 31 décembre 1948, vous arrivez à Paris. Est-ce que vous vous souvenez des premières impressions que vous avez reçues, que vous avez eues en arrivant à Paris?
Bien sûr, il y a la beauté de la ville de Paris, encore que Paris à l'époque était très gris et surtout ces peu d'années après la guerre, il y avait encore de la misère un peu partout. Donc il y a ce choc de l'Occident, mais à partir de là, il y a une expérience de dénuement et de perdition.
De ces années, de ces premières années à Paris.
Qui a duré presque une dizaine d'années.
Oui. Comme des années de perdition. D'abord, vous ne parliez pas le français. Voilà. Et vous dites, l'exilé éprouve la douleur de tous ceux qui sont privés de langage et se rend compte combien le langage confère la légitimité d'être.
Tout à fait. On était réduits, ne parlant pas la langue, et je commençais à l'étudier. Donc, on était réduit à un être un peu primaire, oui.
Et cet apprentissage a été long, difficile. Je suis entrée, dites-vous, par étapes, par bond dans la langue française.
Oui.
Par un bond en avant et parfois en arrière aussi. Enfin, c'était parfois décourageant.
Tout à fait. Il y a des moments de désespoir, de découragement et de désespoir. Mais plus tard, à partir des années 60, c'est-à-dire, disons, 15 ans ou 20 ans après mon arrivée en France, à ce moment-là, je commençais à avoir cette sensation d'entrer dans une autre langue. Et petit à petit, j'ai commencé à, bien sûr, faire des traductions vers le chinois et en même temps commencer à m'exprimer en français.
Et François Cheng, ce moment où vous décidez d'élire une langue comme outil de création, il y a eu effectivement des traductions que vous avez faites du français en chinois pour des revues de Taïwan et d'Hong Kong qui ont eu d'ailleurs un grand retentissement. Mais le moment où vous décidez que le français ce sera la langue dans laquelle vous allez écrire, que vous serez écrivain et que c'est le français, votre langue choisie. Comment vous avez vécu ce moment? Parce qu'il y a, j'imagine, la crainte, l'incertitude de se mouvoir dans une langue qui n'est pas la vôtre et en même temps l'exaltation de pouvoir nommer le monde à nouveau, de recréer le monde avec des mots qui ne sont pas ceux de votre langue maternelle, mais...
Tout à fait. Vous venez de le dire. Abandonner sa langue maternelle, bien sûr, c'est une forme de sacrifice. Et en même temps, j'ai dit, tout d'un coup, entrer dans une autre langue, j'ai fini par éprouver une sorte d'ivresse de renommer les choses à neuf, comme au matin du monde, n'est-ce pas, comme je l'ai dit. Mais bien sûr, ce n'était pas étape, hein. ça n'a pas été le résultat d'une décision brutale comme cela. Mais je dois essayer de... bien sûr, lorsque vous me posez cette question, pourquoi vous avez choisi la langue française, j'aurais pu donner une réponse un peu plus facile, simplement en disant que du fait que je vis en France, donc c'est normal que je finisse par m'exprimer en français, mais la raison est bien plus profonde. Vous savez qu'en général, un exilé utilise souvent l'expression « j'ai refait ma vie dans un autre pays ». Ici, en l'occurrence, c'est la France. Moi aussi, je dis « j'ai refait ma vie en France ». Mais en général, quand un exilé dit cela, il signifie par là que dans un autre pays, il a trouvé un travail qui lui permet de continuer à vivre, tout en restant dans la nostalgie de son passé tout en essayant de vivre selon sa propre tradition. Dans mon cas, c'est tout à fait différent. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai connu la perdition. Et après cette expérience de perdition, quand je dis « j'ai refait ma vie en France », ça veut dire « je renais à la vie » en tant que quelqu'un de complètement transformé. Vous voyez, refaire ma vie. À ce moment-là, dans ce cas, rien de plus radical que d'épouser une autre langue, totalement. Et grâce à cette langue, j'entre bien sûr tout à fait dans une autre culture et je finis par devenir cet autre de moi-même. Vous voyez, parce que entrer résolument dans une autre culture, donc je me suis enrichi bien sûr. Est-ce que pour cela j'ai perdu mon âme? Je ne le pense pas. Je n'ai pas perdu une once de mon âme. Au contraire, la meilleure part, appelons la meilleure part, donc cette meilleure part de l'Occident a fait revivre en moi cette meilleure part qui vient de la culture chinoise et que j'ai gardée en moi. Vous voyez, donc à partir de là, j'ai mené ce travail de dialogue entre la meilleure part
des deux cultures.
Entre les deux meilleures parts, si on peut dire. Donc, ce choix de la langue française a été quelque chose de radical. Et à partir de là, bien sûr, cette langue qui possède ses qualités propres m'a procuré cette distanciation nécessaire par rapport à mon passé, à mon expérience de vie. Ici, parce que j'ajoute encore une chose, parce que ma création est une création tardive. Je n'étais plus ce jeune homme un peu prime sautier qui avait hâte de s'exprimer, voyez. Alors que je suis quelqu'un, quand j'ai commencé à mener ce travail de création par l'écriture, j'étais déjà quelqu'un un peu avancé en âge. Et à ce moment-là, mon œuvre est de quelqu'un qui a vécu, bien sûr, mais qui repense cette vie, voyez. Et par l'écriture de recréer cette vie. Donc, en tant que cette œuvre tardive, cette langue de distanciation qu'est le français est un instrument qui me convient tout à fait.
Oui. Et vous êtes devenu François.
Voilà. oui, voilà.
Quel était votre prénom chinois?
Oui, mon prénom chinois, un peu difficile à prononcer, c'est Tixian. Tixian.
C'est presque Titien.
Oui, presque. D'ailleurs, à l'époque, beaucoup de mes amis, oui, n'arrivant pas à prononcer mon nom correctement, m'appelaient Tixian, d'ailleurs. Oui.
François Chang, dans les années 60, vous faites un voyage en Italie, je crois que c'est le premier voyage que vous faites en Italie.
C'est d'ailleurs l'année 60.
L'année 1960. Oui.
Et, il y a 48 ans, oui.
Et c'est un voyage fondateur.
Fondateur, pour moi.
Pour la découverte du pays, de la lumière, de l'Italie, mais surtout de l'art.
Oui, parce que ma sensibilité était essentiellement auditive, initialement. J'étais donc attiré par l'écriture, par la musique des mots, mais aussi j'étais très mélomane. Donc, je me laissais volontiers bercer par la musique sous toutes ses formes. Mais après, j'ai compris, surtout durant mon exil, cette musique, comme tout à l'heure la musique de Vaujac, entretenait en moi une sorte de nostalgie, une sorte de mélancolie. Vous voyez, parce que la musique me reliait justement à des moments vécus dans le passé, vous voyez. Donc, en 60, j'ai fait ce voyage en Italie, qui était d'abord, donc, il y a cette découverte de la peinture de la Renaissance, Et en même temps, ça a provoqué une sorte de révolution en moi. C'est-à-dire, j'ai déplacé le centre de gravité de ma sensibilité auditive vers la sensibilité visuelle. Oui, c'est ça. Je me tournais résolument vers la concrétude de cet univers incarné. Voyez. Et ça m'a aussi aidé à me sortir de cette nostalgie dans laquelle je me complaisais.
François Cheng, dans Pèlerinage au Louvre, qui vient de paraître aux éditions Flammarion et Musée du Louvre, je crois qu'il va y avoir aussi une version chinoise de ce même livre.
C'est-à-dire la version chinoise va sortir dans quelques semaines.
Alors, dans ce livre où vous nous amenez avec vous dans une visite du Louvre à travers un choix que vous faites d'un certain nombre de tableaux de ce musée, dans ce livre, dans la préface, vous vous posez cette question, au fond, à quel moment j'ai commencé réellement à regarder. Et vous avez donné une partie de la réponse en disant que ce voyage en Italie a été fondamental. Mais il y a autre chose que vous dites qui est très intéressant, c'est que c'est par le détour de l'art occidental que vous avez regardé autrement et systématiquement l'art chinois, la peinture chinoise, à propos de laquelle vous avez écrit des ouvrages extraordinairement érudits et passionnants. Mais voilà, c'est ce détour.
Tout à fait. Vous avez touché du doigt le problème. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit que la meilleure part appelle la meilleure part. Et donc, c'est vrai aussi pour ce qui touche la création artistique. Donc, j'ai découvert la peinture occidentale lors de ce premier voyage. Par la suite, je suis retourné en Italie une trentaine de fois. Donc, j'ai visité toutes les grandes villes où la peinture était présente. Par la suite, bien sûr, pas seulement l'Italie, mais aussi en France et d'autres pays de l'Europe, y compris l'Amérique aussi. Bien. Donc, à tel point que je me suis défini comme un pèlerin de l'Occident. D'où d'ailleurs le titre du
Pèlerinage au Louvre.
Pèlerinage au Louvre, bien. Donc, à cause de cette découverte de la peinture occidentale, j'ai fini aussi par redécouvrir la grande tradition picturale de Chine. Avant, j'ai été un simple amateur. Hein, et par la suite, je suis devenu une sorte de spécialiste de la peinture chinoise. Donc, depuis une trentaine d'années, j'ai publié 5 ou 6 albums ayant pu sujet la peinture chinoise. Et après cette expérience, et à cause aussi de cette passion pour la peinture occidentale, puisque ça fait 48 ans que je regarde la peinture occidentale, donc presque en fin de vie maintenant, j'ai cette audace de me tourner cette fois-ci vers la peinture occidentale. Et avec la confiance, bien sûr, de M. Loirette, le président direct du Louvre, donc j'ai abordé cet ouvrage avec confiance et en même temps avec enthousiasme. Parce que je crois que la différence, cette conscience de la différence entre la peinture chinoise et la peinture occidentale me donne aussi une sorte de pertinence pour voir la différence et pouvoir aussi cette part universelle des deux grandes traditions. Voyez, c'est...
Alors, François Cheng, quand on lit ce livre, Pèlerinage au Louvre, à plusieurs reprises, on a le sentiment que vous essayez de tisser des liens entre la grande peinture chinoise et la peinture occidentale. Entre, par exemple, l'œuvre des lettrés peintres de la Renaissance chinoise du 8e au 13e siècle et certains tableaux du Louvre. Comme si la mémoire, la connaissance de l'art chinois qui sont les vôtres, vous aidaient à voir autrement la peinture occidentale et comme s'il y avait un aller-retour permanent du regard entre une peinture et l'autre. Et là, j'ai apporté pour vous, j'ai sélectionné à mon tour quelques tableaux parmi tous ceux dont vous parlez. Et le premier dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est un tableau de Lorenzo Lotto, c'est Saint Jérôme pénitent, qui semble vraiment entretenir un lien imaginaire avec l'art chinois. Alors, à cause du paysage, à cause des rochers, des pierres.
Oui, je dois d'abord préciser que je fais de temps en temps des rapprochements, mais chaque fois quand il y a lieu, sinon je ne...
Bien sûr, ce n'est pas à tout prix.
Tout à fait. Ici, en effet, parce que Lotto, donc le Louvre possède ce tableau de Lotto, qui est Saint Jérôme, qui est là assis au creux d'une pierre, et cette pierre est surmontée par d'autres rochers. Hein. Donc il y a tout un empilement de rochers derrière cette saint ermite. Avant même d'aller plus avant dans ce tableau, je l'ai choisi tout de suite parce que les Chinois et surtout les artistes chinois, je dirais même les Chinois en général, entretiennent ce rapport intime avec la pierre, avec les rochers.
D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que le nu n'est pas un objet de la peinture chinoise, et alors que dans les académies, traditionnellement, plus maintenant probablement, mais dans les maintenant académies encore, de peinture oui. des Beaux-Arts oui. en Occident, on commençait par l'étude anatomique, l'étude du nu. En Chine, on commence par l'étude des pierres et des rochers.
Tout à fait. Parce que d'abord, les pierres et les rochers incarnent l'univers originel. Hein. C'est le témoin le plus ancien de l'univers créé. Et en même temps, pour un Chinois, le rocher n'est pas cette chose compacte et fixe, figée. Au contraire, le rocher respire encore. Tout le souffle originel circule encore à l'intérieur des rochers. Pour un Chinois, le rocher est vivant. Vivant, c'est-à-dire comme de la chair hein, vivante. Les Chinois... Et puis, les rochers présentent toutes les formes possibles. Il y a une variation de formes extraordinaire du côté des rochers. Donc, les Chinois commencent... les artistes chinois commencent leurs études par dessiner les rochers et les arbres. Hein. Il y a cette connivence charnelle avec l'univers des pierres. Seulement, aussitôt après cela, j'ai vu la différence. Dans l'art chinois, on voit des ermites dans les montagnes, n'est-ce pas, qui entretient cette relation de connivence avec les pierres et les arbres. Ici, il y a cette état de communion intime. Tandis que là, Saint Jérôme, bien sûr, il se lamentait. C'est-à-dire qu'il essaye de revivre la passion du Christ. Voyez. Donc, il essaye de s'identifier à la douleur du Christ et à travers le Christ, de s'identifier à la douleur du monde. Donc là, il y a une autre posture ici, tout à fait. Mais l'empêche que, à la fin de mon analyse de ce tableau, j'ai quand même rappelé cette connivence entre l'homme et le rocher pour dire que, même dans le cas de Saint Jérôme, puisqu'il est encore de cette terre, c'est à travers cette terre qu'il essaye de communier avec la douleur, la souffrance de Dieu vivant. Cette idée d'une connivence existe aussi dans ce tableau, voyez, de cette interdépendance, oui, oui. si on peut dire. Oui.
Alors, vous ne vous êtes pas soustrait à l'exercice difficile entre tous de parler de la Joconde. Il nous reste peu de temps, donc on n'aura pas la possibilité de développer tout ce que, enfin, de vous entendre sur tout ce que vous avez pu dire à propos de ce tableau. Mais vous soulignez, disons, la vision organique et globale qui est celle de Léonard, peintre-philosophe, là encore proche des peintres lettrés, proche de quelqu'un comme Guaxi,
si,
oui, du oui, 11e siècle.
Oui, tout à fait. Je développe un tout petit oui. peu. Bien. Vous venez de souligner cette vision de Léonard, une vision organique et unitaire d'un univers vivant qui est très proche de la vision cosmologique chinoise, puisque chez Da Vinci, il dit que tout provient des énergies qu'il emploie, alors que dans l'optique chinoise, on dit tout provient du souffle-esprit. Vous voyez, là où Léonard parle de l'énergie, en Chine, on parle du souffle. Donc c'est à cause cette énergie anime, selon Da Vinci, anime aussi bien l'univers vivant que le corps humain. Et les Chinois, chez les Chinois, c'est le même principe qui gouverne leur vision. Bien. Donc, à cause de cela, il faut regarder la Joconde non pas de façon isolée, parce qu'on peut s'interroger indéfiniment pourquoi elle sourit, quel est le sentiment derrière ce sourire. Ça, c'est une interrogation uniquement d'ordre psychologique et qui n'est pas intéressant finalement. Par contre, il faut toujours regarder la figure de la Joconde en relation avec le paysage qui est derrière. Vous savez qu'en général, à l'époque de la Renaissance, le paysage qui est derrière le personnage, en général, arrive au niveau des épaules, voyez. Tandis que ici, Da Vinci a rehaussé le paysage jusqu'au niveau des yeux du personnage. Et surtout, au sommet de ce paysage un peu originel, il y a les deux pas et d'autres des yeux, les lacs supérieurs. Vous savez, ces lacs, ce sont ces inviolés et vierges qui reflètent la lumière, une sorte de lumière transcendantale qui vient d'en haut, vous voyez, en gardant toute cette pureté originelle. Et en sorte que lorsque vous regardez cette figure en même temps que le paysage, tout d'un coup, on a compris que l'intention profonde de Léonard, c'est de décrire cet étonnement devant le miracle de l'univers vivant et le miracle de la beauté féminine, c'est-à-dire cet univers vivant qui contenait la promesse de la beauté et a abouti un jour à cette figure de la femme dans la plénitude de sa beauté. Donc, aussi bien l'univers vivant que la femme, en sa plénitude, tous les deux relèvent de ce miracle de la vie qui est un don inouï, comme je l'ai dit au début de notre émission, voyez. Et en sorte que c'est pourquoi la figure de la Joconde dépasse déjà toute idée d'un portrait quelconque d'une dame florentine. Elle a dépassé ses conditions sociologiques. Elle devient la figure même de l'avènement de la beauté humaine incarnée par cette figure à peine idéalisée, puisque la Joconde a réellement vécu. Hein. Donc c'est à la fois une réalité et non pas une pure illusion, voyez-le. Oui.
François Cheng, on arrive au terme de cette émission et je voudrais vous poser une toute dernière question très rapidement, même si le problème mériterait beaucoup plus de temps pour être étudié. La Chine est au devant de l'actualité depuis quelque temps. Elle suscite beaucoup de débats, de polémiques à cause des Jeux olympiques, des révoltes au Tibet. Quelle est votre position, vous qui avez toujours penser que le dialogue entre la Chine et l'Occident était inévitable, était non seulement souhaitable, mais pour les deux, mais absolument indispensable.
Tout à fait.
Quelle serait votre position ?
Oui, on peut même ne pas parler de position. C'est très simple. Hein. Il faut que chaque peuple puisse vivre pleinement selon sa culture et selon sa tradition. Vous voyez, ce qui est vrai pour les Chinois aussi bien que pour les Tibétains. Vous voyez, donc il faut ce respect fondamental pour de la liberté des peuples de choisir leur forme de vie. Vous voyez bien. Maintenant, pour ce qui concerne la Chine, je crois que il faut garder une. La Chine est plus complexe qu'on le pense. Pour le moment, on est bien sûr, on est dans une situation historique donnée, mais en même temps, il faut dire que la Chine n'a jamais été ce pays uniquement monolithique et immuable qu'on imagine. C'est un peuple qui a cherché à sa manière, puisque les Chinois, malgré leurs deux courants de pensée, le confucianisme et le taoïsme, ont plus tard embrassé le bouddhisme d'eux-mêmes, voyez. Et aujourd'hui, la Chine est habitée malgré un régime autoritaire et la Chine est habitée par toutes sortes de spiritualités aussi. Donc il y a le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, l'islam et aussi le christianisme. C'est de là, il faut penser qu'il ne faut pas juger la Chine d'une manière uniquement monolithique non plus. Donc il faut peut-être faire confiance à la capacité d'évoluer de ce peuple. Nous pouvons formuler le vœu dans ce sens. Voyez.
Vous avez souvent souligné le fait qu'un peuple, il ne faut pas confondre un peuple et un régime.
Là, bien sûr, ça c'est bien entendu, oui. Mais je crois qu'il faut faire confiance au génie de ce peuple même, qui a, je le répète, qui a cherché à sa manière aussi, le vrai et le beau à sa manière.
Merci François Cheng, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions du Musée du Louvre et éditions Flammarion, Pèlerinage au Louvre. Et je rappelle la sortie aux éditions Audiolib d'un enregistrement des 5 méditations sur la beauté lues par vous. Merci. C'était Affinité Lective, une émission de Francesca Isidori, à la technique Arnaud Chapat, réalisation Brigitte Aléo, une émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site franceculture.com pendant une semaine. Merci à tous.